Merci Mario. Ce matin, j'avais à cœur un passage dans la parole de Dieu. Dans Luc 10, verset 17 à 24, on va lire, qu'on va regarder. Dans ces passages-là qu'on va lire ce matin, ça nous parle de se réjouir dans le Seigneur. Puis dans le cantique qu'on a chanté ce matin, le premier 220, Bienheureux pardonné. Ça me parle aussi de joie, dans ce cantique-là. Je vais lire le passage. Après ça, je vais prier. On va lire Luc 10, les versets 17 à 24. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit, je te loue. Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, celui à qui le Fils veut le révéler. Il se tourna vers les disciples et leur dit en particulier, Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. On va prier avant de commencer. Seigneur notre Dieu, c'est un privilège qu'on a ce matin d'ouvrir ta sainte parole, la parole de Dieu, qui est là, qui nous nourrit spirituellement, Seigneur, qui nous dirige et conduit. Je te prie de mettre ta main sur ce temps qu'on va avoir. Dirige-moi par ton Esprit Saint, soit avec mes frères et sœurs aussi, qui sont à l'écoute, d'être avec eux, Seigneur, et je te prie de nous bénir tous ensemble. C'est ton nom du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qu'on t'en prie. Amen.
Amen.
Dans ce passage-là, ce matin, qu'on a lu, je vais donner un titre à mon passage. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est des paroles merveilleuses que le Seigneur a dit aux disciples ici. Non, non, quand j'ai commencé ce message-là, je me disais sur la terre, nos noms, on l'a écrit à plusieurs reprises. La première chose qu'on apprend à un enfant, c'est son nom. On va l'appeler par son nom. Puis la première chose que l'enfant va dire, bien souvent, c'est papa, maman, puis dire son nom aussi. L'enfant à l'école, la première chose qu'on lui apprend, écrire son nom. Exemple, Guillaume, Mégane, elle a 4 ans, elle écrit son nom. Elle est capable de l'écrire. Elle ne va pas encore à l'école, mais elle est capable de l'écrire parce qu'ils lui ont montré. Dans notre vie, on a écrit notre nom plusieurs reprises. Si on compterait le nombre de fois qu'on a écrit nos noms, depuis qu'on est enfant, plusieurs fois, quand on allait à l'école, ben, si on avait un examen, on écrivait notre nom, on avait une dictée, on écrivait notre nom. Des fois, on aurait aimé mieux écrire le nom d'un autre parce que la dictée n'était pas bonne. Mais c'était là, notre nom il est écrit à plusieurs reprises. Puis quand on vieillit, ben, c'est encore pareil. Nos noms sont écrits au gouvernement, sont écrits dans les hôpitaux, sont écrits quand on fait des. En vieillissant, quand on achète un nom à un auto, on signe un contrat. Quand on parle, mettons, moi et Lucie, contrat de mariage, permis de conduire, notre nom est écrit, faire une maison, un contrat, remplir des formulaires, signer des chèques, etc. Quand j'avais mon commerce, moi, j'écrivais mon nom tous les jours parce que les personnes apportaient des colis, bien, il fallait signer. Mais signer des chèques beaucoup aussi. Fait que c'est pour montrer qu'ici, nos noms, on les écrit souvent. Quand je suis né, mes parents ont écrit mon nom, parce qu'eux autres ont choisi mon nom la première fois. Puis le prêtre a écrit mon nom sur le baptistère, là, la date à ma naissance. À mon décès, c'est pas moi qui vais écrire mon nom, ni la date du décès, c'est le salon funéraire. C'est pour vous montrer que sur la terre, on écrit nos noms à plusieurs reprises. C'est des choses normales, c'est des choses qui font partie du quotidien. Un jour, il y avait marqué qu'il travaillait pour moi à l'époque. Puis on parlait de sport, il aimait du sport beaucoup. Puis lui, un jour, il avait été au championnat canadien de ballon-ballet à Alberta. Puis il venait de Thetford, puis il avait gagné le championnat. Ça fait que c'était de quoi de bon pour eux autres. Puis il m'avait dit, mon nom est écrit dans le livre d'or de la ville de Thetford. Ben, j'ai dit, moi, mon nom est écrit dans les cieux. C'est pour moi qu'il l'a écrit, c'est le Seigneur. Ça fait que c'est pour montrer que c'est sûr que dans les cieux, on ne peut pas faire grand-chose. Mais le Seigneur fait toute chose. Ici, là, on va revenir au passage, les disciples, au verset 20. On voit que les disciples sont joyeux. On va lire le verset 17. Les 70 et 10 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Voici, je vais vous aider le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toutes les puissances de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. On voit que les serviteurs, que le Seigneur les avait envoyés deux par deux pour aller annoncer le royaume de Dieu. On peut lire ça dans Jean 10, le verset premier. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya deux à deux devant lui. Dans toutes les villes, dans tous les lieux qu'il devait aller. Il annonçait le royaume de Dieu. Puis dans ce passage-là, on voyait que les disciples sont joyeux parce que les puissances démoniaques sont soumises. Ils pouvaient délivrer des personnes, des démons, par le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui les avait donné cette autorité-là, ça n'était pas d'eux autres. Puis quand ils sont revenus vers le Seigneur, bien, ils étaient heureux, ils étaient contents de cela, parce que ça devait être un peu spécial de pouvoir délivrer les personnes de démons. Puis aussi qu'il y avait le pouvoir de guérir des personnes. On voit ça, on peut lire le verset, mais Luc 10, le verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-là, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il y avait la puissance de guérir les malades aussi. Puis quand ils reviennent, ben ils partagent ça avec le Seigneur. Ils sont heureux de partager ça. C'est des choses merveilleuses qu'ils ont vécues. Puis ils racontent ça au Seigneur parce que là, ils étaient partis dans. Ils n'ont pas tout lu le passage, mais dans les commentaires, à partir du verset 1, aller au verset 16, on voit qu'ils étaient partis pour quelques jours, même peut-être une semaine et plus. Mais quand ils sont revenus, ben ils étaient heureux de partager ça avec le Seigneur. Mais le Seigneur ici attire l'attention sur autre chose. Les disciples ils ont fait des miracles. Le verset 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Les disciples étaient heureux parce qu'ils voyaient des miracles quand ils étaient partis. Ils guérissaient des malades, puis ils avaient le pouvoir de délivrer des personnes démoniaques. Mais le Seigneur attire l'attention sur d'autres choses encore de plus beau que ça. C'est le miracle de la grâce, le salut en Jésus-Christ. C'est ça le plus grand des miracles dans toute l'histoire de l'humanité. Le Seigneur attire l'attention ici, le chance. Réjouissez-vous que ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est la nouvelle naissance. En tant que, on va lire, on va citer Jean 3,16, Jean 3,16 qu'on connaît très bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est tout un verset, ça. Il y a plusieurs personnes qui sont venues à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ par ce verset. Il est mentionné, puis c'est un verset qui nous parle de l'amour de Dieu, puis qui nous parle que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il y a aussi, on va lire dans Jean 3, la nouvelle naissance, Jean 3, les versets 3 à 6. C'est Nicodème, on va lire à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si c'est Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans ce passage, on voit la nouvelle naissance. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne reçois pas le Saint-Esprit de Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est impossible. Ça prend le Saint-Esprit. Ça prend le Saint-Esprit qui vient de Dieu, qui ne vient pas de l'homme. Et dans Jean 1, le verset, on va parler d'enfant de Dieu ce matin. Jean 1, le verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. L'homme ne peut pas rien faire là-dedans, c'est la volonté de Dieu, ça vient de Dieu seul. Puis on parle aussi de quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, on est une nouvelle naissance. 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, verset, 2 Corinthiens 5, verset qu'on connaît bien. 5, 17, 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela attire l'attention ici. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a redonné le mystère de la réconciliation. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le verset 21, pour revenir dans le 10, là, verset 21. Luc 10, le verset 21, on voit qu'en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel, de la terre, de ça, tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents. Que tu l'as les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu. C'est spécial un petit peu ici. Le Seigneur tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Dans ce verset-là, on peut voir que je te loue, Père, répété à deux fois. On voit que le Seigneur attire l'attention aussi. Il attire l'attention, puis en même temps, il rend gloire au Père, Seigneur du ciel et de la terre. C'est le Seigneur, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs sur le ciel et sur la terre. Il dit, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. C'est des choses merveilleuses qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. La parole de Dieu qu'on a entre nos mains. Puis, les personnes qui ne sont pas sauvées, comment qu'il y aura toute la sagesse du monde, l'intelligence du monde, ne comprennent pas les choses de Dieu. C'est impossible, ça prend le Saint-Esprit. Puis un autre verset aussi, 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 14, qui nous parle de la sagesse et l'intelligence humaine. On va les lire. Pas long, on m'en vient. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 14. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous a révélées par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. En effet, et nous en parlons non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ou l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en veut. On voit ici dans ce passage-là que ça confirme qu'on reçoit les choses de Dieu parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Et la sagesse humaine, quand même quelqu'un apprendra la parole de Dieu par cœur au complet, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il ne peut pas comprendre la pensée de Dieu. C'est merveilleux. Puis on voit que le Seigneur se réjouit de ça. Parce que la parole de Dieu, c'est une perle qu'on met entre les mains, puis il ne veut pas donner ça au monde, donne ça juste à ses enfants. C'est important. Dans ce passage-là, on peut voir aussi la Trinité. On peut voir le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans ce passage-là, dans le verset 21. C'est des passages qui. Pour ma part, qui me réjouit. On va lire d'autres passages aussi par rapport dans le même contexte, dans le même. On va lire dans Matthieu 13, Matthieu 13, verset 11, le verset 16. Matthieu 13, le verset 11, on va lire le verset 10 aussi. On va lire 9, tiens. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais l'Église ne peut pas faire. Il lui dit, pourquoi le parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. Et le verset 16, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Heureux, spécial, le Seigneur dit, heureux sont vos yeux. parce qu'il voit ce que vous voyez. On parle, depuis qu'on a regardé ce verset-là, on parle de joie, on parle de se réjouir dans le Seigneur, puis de se réjouir que nos noms sont écrits dans les cieux. On voit que le Seigneur se réjouit de ça aussi. Luc, j'aimerais revenir dans Luc 2, le verset 8 et 14. De 8 à 14, ça nous parle de la naissance du Seigneur. Luc 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs la veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Voici un ange du Seigneur leur apparut, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. J'attire l'attention là-dessus sur ça. Ici, c'est aujourd'hui dans la ville de David qu'il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. On voit ici le Seigneur Jésus-Christ à sa naissance, comment les anges se réjouissent. L'armée céleste dans les cieux se réjouit de la venue d'un sauveur. C'est merveilleux pour le monde, c'est merveilleux pour nous en tant qu'enfants de Dieu, la naissance d'un sauveur. Dans le verset qu'on a lu, verset 20, Luc 10, verset 20, là, on a lu dans Luc, la naissance du Seigneur, les anges se réjouissent. Ici, c'est le Sauveur lui-même qui se réjouit. Pas n'importe quoi. Le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur lui-même qui se réjouit. Puis tu allais voir, tressaille d'allégresse par le Saint-Esprit. Allégresse, c'est une grande joie qui se manifeste extérieurement. Une grande joie qui se manifeste. On voit que le Seigneur, il est heureux, il se réjouit de ça. Il manifeste sa joie. Puis c'est une joie dans le ciel aussi. Quand des personnes viennent au Seigneur, Luc 15, versets 7 et 10. Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et le verset 10, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. C'est grand quand on regarde à ça. Un pécheur qui vient au Seigneur Jésus-Christ dans le ciel, les anges se réjouissent, sont heureux, sont contents. C'est de la joie qui est là. C'est de la joie de merveilleux pour le monde. Quand on est venu au Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi qu'on a? On a de la joie dans notre cœur, on a une paix, on dirait que c'est tout est merveilleux, c'est tout est changé. Une sœur qui me disait quand elle avait accepté le Seigneur, elle s'en allait en auto, elle disparaît. Si mon auto avait flotté dans les airs, elle ressentait la joie du Saint-Esprit dans elle. C'est merveilleux, ça. Les mots nous manquent quand on regarde ça. Puis à la verset 23 et 24 de Luc 10, qu'on revient. En se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Heureux, il attire l'attention. Regardez, je suis la parole de vie, la parole faite chair. Heureux. Puis le verset 24. Il nous parle des prophètes. Je vous le dis, beaucoup de prophètes, de rois ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. Les prophètes de l'ancienne alliance, les rois, ils auraient voulu voir ça. Mais là, Les disciples sont là en face du Seigneur Jésus-Christ, puis ils le voient, la parole qui a été faite faire. Je vais lire un verset dans Jean 1, 14, par rapport à le verset 14. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi vous, pleine de grâce et de la vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. L'apôtre Jean, quand il écrit ça, là, il est inspiré par le Saint-Esprit. Mais on voit qu'il parle de la gloire du Seigneur sur la terre, la gloire qui va. Il y a dans le ciel présentement aussi. La gloire du Fils unique venu du Père. Ce n'est pas n'importe quoi, frère et sœur. C'est la gloire du Fils unique venu du Père. J'aimerais citer aussi 1 Pierre 1, 10, qui parle des prophètes qui avaient désiré voir ce qu'on. Lire les versets. 1 Pierre 1, les versets 10 à 13. Les prophètes, 1 Pierre 1, les versets 10 à 13, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur refif, leur investigation. On voyait qu'ils recherchaient, essayaient de comprendre, de voir ces choses. Voulant sonder les époques, les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étiez les dispensateurs de ces choses, que nous vous en ont annoncé maintenant, ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. L'Évangile qui est annoncé, les anges désirent plonger leur regard. Les prophètes voulaient voir ces choses-là, mais ce n'était pas pour eux, mais c'était révélé à nous en tant qu'enfants de Dieu. Quand j'ai médité ce passage-là, il y a de la joie dans le ciel. Parce que nos noms sont écrits, les anges se réjouissent, le Seigneur, le Sauveur se réjouit. Là, mais on peut regarder le Seigneur d'une autre manière. Mais souvent, on va dire, il y a deux côtés de médaille. Le Seigneur se réjouit ici dans Luc 10, verset 21. Mais je veux vous emmener, le Seigneur pleure. Dans Jean 11, verset 35. Dans 11, verset 35, Jésus pleura. C'est un verset qui est très, très court, mais qui en dit long. Puis le Seigneur, on peut voir qu'il a pleuré à deux reprises aussi dans Luc 19, verset 41. Luc 19, le verset 41. Quand il s'approchait de la ville, Jésus, la voyant, pleurait sur elle et dit, Et toi aussi, dis-moi, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Voilà, le Seigneur pleura sur elle, il pleure sur la ville de Jérusalem parce qu'il veut les emmener à lui, mais ils ne veulent pas. Ici, dans Jean 11, verset 35, quand le Seigneur a ressuscité Lazare, on voit que, tournez ma Bible dans Jean 11, ça va aller mieux. Ça pas long, je m'en viens. Jean 11, verset 35, Jésus pleura. sur quoi les Juifs lui disaient, voyez comme il l'aimait. Ici, le Seigneur, il pleure. C'est sûr qu'il ne pleure pas sur. On voit en même temps l'humanité parfaite, parfaitement homme. Le Seigneur pleure. Ici, le Seigneur pleure. Il ne pleure pas sur Lazare parce que c'est il va ressusciter Lazare ici. Mais il pleure sur les conséquences de la mort. Ses larmes n'étaient pas des larmes de deuil, puisqu'il savait qu'il allait ressusciter Lazare. C'est des larmes de tristesse. La souffrance dans la mort, la séparation d'un être cher, famille, conjoint, nos amis, la séparation d'avec Dieu. Le Seigneur, ici, il pleure. Quand elle préfère entrer dans le monde, ça amenait la souffrance, ça amenait la mort, ça amenait la séparation. Quand je regardais ces versets-là, Dieu appelle l'homme à se repentir. Mais quand l'homme ne veut pas se repentir, le Seigneur ne peut plus rien faire. Il fait ce qu'il fait présentement, comme on peut voir dans ce passage-là. Le Seigneur pleure. Il ne peut pas faire autre chose parce que l'homme ne veut pas revenir à lui. Après la mort, pour les personnes qui ne sont pas sauvées, c'est le jugement. Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la repentance. C'est le cœur de Dieu, il veut que les hommes soient sauvés. Mais l'homme, il refuse. Il refuse cette grâce merveilleuse. Monsieur Matthieu 7, versets 13 et 14. Des versets qu'on connaît, mais que. Et c'est bon de les lire, les relire et les relire encore. Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui les mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui les mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Tantôt, on a parlé du livre de la vie. C'est écrit dans Apocalypse 17, versets 21, 20, 21. Ça nous parle aussi que d'autres livres furent ouverts. On va aller lire ce passage-là parce que. Apocalypse, la Bible s'en vient maganer les pages. Donc, quasiment envie de déchirer. Excusez. Apocalypse 17. C'est le bon point. Apocalypse 20. Ouais, excusez. Je me suis trompé de force. Apocalypse 20, les versets 11. Puis je fis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et ne fut pas trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant les trônes, des livres furent ouverts. Il y a un autre livre qui fut ouvert, qui est celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort, le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort, le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. qui compte. C'est une fin terrible pour les personnes qui ne sont pas sauvées, qui refusent la grâce de Dieu. Des livres sont ouverts, tout ce qui ont fait dans leur vie. Tout est écrit. Ils vont se présenter devant Dieu. Le Seigneur va ouvrir ces livres-là, c'est ça. Aujourd'hui, ils vont rencontrer le Seigneur comme leur juge, pas comme leur sauveur. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va rencontrer notre sauveur. Ça fait complètement différent. C'est une grâce merveilleuse que Dieu nous a faite. Le Seigneur est allé nous préparer une place, puis il va revenir nous faire faire. J'aime bien un passage. On va tourner dans l'Évangile de Jean. On va lire dans Jean 14, un verset qu'on connaît bien, les versets. Jean 14 et verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Excusez. C'est des paroles d'encouragement que le Seigneur est allé nous préparer une place. Il y a un autre verset aussi dans ce sens-là. Jean 17, le verset 24. Je l'ai souligné dans ma Bible parce que je trouve ce verset-là très beau, le verset d'assurance. C'est une prière que le Seigneur fait au Père. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Un verset d'encouragement, c'est un verset de que le Seigneur nous veut auprès de lui et qu'il voit sa gloire. Une gloire qu'un jour on va être dans sa présence pour l'éternité. J'aimerais terminer, mais la conclusion de ça, ben, je ne sais pas si j'ai une conclusion. On peut voir les deux côtés du Seigneur. Le Seigneur se réjouit quand les personnes sont sauvées, les anges se réjouissent. On voit de l'autre côté, le Seigneur pleure quand les personnes refusent sa grâce merveilleuse. Aujourd'hui, quand j'avais dit à Gilles, j'ai un message que j'ai préparé, ça faisait quelques semaines. Il dit, donne-moi donc une date pour que je puisse apporter la parole. Il me donne le 10 mars 1924. Pour vous autres, ça ne vous dit pas grand-chose, le 10 mars. Ben, pour moi, j'ai accepté le Seigneur le 10 mars 1989 à 3 heures du matin. J'ai 70 ans aujourd'hui. Ça fait 35 ans que je suis sauvé. J'ai été 35 ans à marcher dans les ténèbres, 35 ans à marcher dans la lumière, 35 ans à marcher dans l'espérance, la vie éternelle qui est promise qu'un jour, on va être avec le Seigneur. C'est à 3 heures du matin, le 10 mars 1989, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée. J'irai pas plus loin. Merci de votre attention. J'avais ce passage-là sur mon cœur parce que je le trouve très beau. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, Merci pour ta parole qui est là, la parole qui nous encourage, qui nous donne cette espérance fondée sur toi, Seigneur, qu'un jour on va être avec toi pour l'éternité. Et merci pour ton Fils, bien-aimé le Seigneur Jésus-Christ, pour son œuvre qui est faite sur la croix, pour chacun de nous, pour tous les enfants de Dieu qui croient, qui ont reçu ce salut merveilleux. Et c'est au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. Bien-aimé, qu'on t'en prie. Amen.
Amen.
Amen.